Épître aux Romains, chapitre 2.
Lecture de la parole. C'est pourquoi tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois qui juge. Car en ce que tu juges autrui, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu commets les mêmes choses. Or nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité contre ceux qui commettent de telles choses. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les pratiquent, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais selon ta dureté et selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. À ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité, la vie éternelle, mais à ceux qui sont contentieux et qui désobéissent à la vérité et obéissent à l'iniquité, la colère et l'indignation, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, et du juif premièrement, et du grec. Mais gloire et honneur et paix à tout homme qui fait le bien, et au juif premièrement, et au grec, car il n'y a pas d'acception de personnes auprès de Dieu. Car tous ceux qui ont péché sans loi périront aussi sans loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi, car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui accomplissent la loi qui seront justifiés. Car, quand les nations qui n'ont point de loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant pas de loi, elles sont loi à elles-mêmes, et elles montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience rendant en même temps témoignage, et leurs pensées s'accusant entre elles, ou aussi s'excusant, seront jugées, dis-je, au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes selon mon évangile. Or si toi tu portes le nom de juif, et que tu te reposes entièrement sur la loi, et que tu te glorifies en Dieu, et que tu connaisses la volonté, et que tu saches discerner les choses excellentes, étant instruit par la loi, et que tu crois que tu es conducteur d'aveugles, lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, instructeur des hommes dépourvus d'intelligence, maître de petits-enfants, ayant la formule de la connaissance et de la vérité dans la loi, toi donc qui enseignes les autres, ne t'enseignes-tu pas toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit pas dérober, dérobes-tu? Toi qui dis qu'on ne doit pas commettre adultère, commets-tu adultère? Toi qui as en abomination les idoles, commets-tu des sacrilèges? Toi qui te glorifies en la loi, déshonores-tu Dieu par la transgression de la loi? Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les nations, comme il est écrit. Car, en effet, la circoncision est profitable si tu accomplis la loi. Mais si tu es transgresseur de la loi, ta circoncision est devenue incirconcision. Si donc l'incirconcision garde les exigences de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée pour circoncision? Et l'incirconcision qu'il est par nature, en accomplissant la loi, ne te jugera-t-elle pas, toi, qui, dans la lettre et la circoncision, est transgresseur de la loi? Car celui-là n'est pas juif qu'il est au dehors, et celle-là n'est pas la circoncision qu'il est au dehors dans la chair, mais celui-là est juif qu'il est au dedans, et la circoncision est du cœur, en esprit, non pas dans la lettre. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu.
Lecture de l'étude. Tous les païens, sans exception, étaient-ils donc tombés aussi bas que l'indique la fin du premier chapitre? Non. Il y en avait parmi eux qui se détournaient avec indignation des infamies qui se pratiquaient en général et qu'on approuvait. Il y avait des philosophes, des apôtres de la morale, etc., qui condamnaient les tristes voies de leurs concitoyens, s'apitoyant sur eux ou les méprisant. Il en était d'eux comme des docteurs de la loi et des pharisiens au temps de Jésus. Ceux-ci s'estimaient beaucoup plus justes que la foule ignorante qu'ils méprisaient. Jean 7, verset 48-49.
Et vous aussi, êtes-vous séduit? Aucun d'entre les chefs ou d'entre les pharisiens a-t-il cru en lui? Mais cette foule, qui ne connaît pas la loi, est maudite.
Il liait sur les épaules des hommes des fardeaux pesants et difficiles à porter, et ne voulait pas eux-mêmes les remuer de leurs doigts. Matthieu 23, verset 4.
Il lie des fardeaux pesants et difficiles à porter et les met sur les épaules des hommes, mais eux, ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts.
Ils avaient la prétention de voir, alors qu'ils étaient aveugles. Ils étaient doublement coupables, leur péché demeurait. Jean 9, versets 40 et 41.
Et quelques-uns d'entre les pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces choses et lui dirent : Et nous, sommes-nous aussi aveugles ? Jésus leur dit : Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Et maintenant vous dites : Nous voyons, votre péché demeure.
Il en était de même des hommes mentionnés ici. Ils jugeaient les autres à cause de leurs actions, et, en secret, ils commettaient les mêmes choses, augmentant ainsi leur responsabilité. C'est pourquoi tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois qui juge, car en ce que tu juges autrui, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu commets les mêmes choses. Verset premier. On peut obtenir auprès des hommes une certaine considération dans une telle position. Mais Dieu ne se laissera jamais tromper par une apparence de piété et ne reconnaîtra pas une justice humaine quelconque. Nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité contre ceux qui commettent de telles choses. Verset 2. Dieu sonde les cœurs et les reins. Le manque de sincérité et l'hypocrisie sont une abomination devant lui. Combien insensé est l'homme qui pense pouvoir échapper au jugement de Dieu en jugeant ceux qui commettent de telles choses, tout en les pratiquant lui-même, verset 3. En montrant par son jugement qu'il connaît et accepte le jugement de Dieu sur le mal, et en le commettant lui-même, il se rend doublement coupable. L'apôtre profite de cette occasion pour mettre en lumière un principe divin important. Dieu, après s'être révélé à l'homme de diverses manières, juge tout homme maintenant et agit envers lui selon sa conduite à l'égard de ses révélations. C'est pourquoi l'apôtre ne parle plus exclusivement des païens, mais des hommes en général, juifs ou grecs, versets 9 et 10. Chrétiens professants, pouvons-nous ajouter. Tu es inexcusable, ô homme, dit-il, qui que tu sois qui juge, et après, penses-tu, ô homme, etc. Or pour cet homme vient le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, verset 5, qui rendra à chacun selon ses œuvres, car il n'y a pas d'acception de personnes auprès de Dieu, verset 11. Dans l'accomplissement de ses desseins particuliers, Dieu s'est choisi, il est vrai, parmi les habitants de la terre, un peuple, et il lui a donné sa loi et ses ordonnances, mais en réalité, il n'y a pas de différence entre les hommes. Ils ont tous la même nature, ils sont tous des pécheurs impurs et coupables devant Dieu, et ils ont tous besoin de repentance. Ils ont, il est vrai, des lumières et une connaissance différentes, et Dieu, dans sa justice, y a égard. Mais ils seront tous manifestés devant lui pour recevoir selon leurs œuvres. Verset 6. Aujourd'hui, c'est pourtant encore le temps de la grâce et Dieu, dans sa bonté, pousse les hommes à la repentance. Verset 4. À la repentance? Qu'est-ce que la repentance? Ce n'est pas seulement, comme on le pense généralement, le jugement des fruits de la mauvaise nature, bien que cela y soit naturellement compris, mais c'est le changement complet de la disposition d'un homme, le jugement sans ménagement du moi, vu à la lumière de Dieu. La repentance est donc une œuvre progressive, une œuvre de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de l'âme, qui conduit un homme, réveillé dans sa conscience, à se sonder et à se juger lui-même et à juger ses voies dans la sainte présence de Dieu toujours plus sérieusement et profondément. La vraie repentance amène l'âme en accord avec Dieu. Sans elle, il n'existe pas de vraie foi. C'est sur le chemin de la repentance et de la foi que l'homme est renouvelé dans l'esprit de son entendement et qu'il revêt le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Éphésiens 4, versets 23 et 24.
Être renouvelé dans l'esprit de votre entendement et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité.
Dieu, dans sa bonté, sa patience et sa longanimité, s'efforce aujourd'hui encore de pousser l'homme à la repentance. C'est pourquoi malheur non seulement à quiconque méprise cette bonté de Dieu, mais aussi à celui qui compte trop sur cette bonté. On aime tant à parler du « bon Dieu ». On cherche ainsi à oublier le jugement certain. Hélas, combien de millions d'âmes agissent ainsi? En ne voulant rien savoir du jugement à venir, ils négligent le jour de la grâce et le grand salut qui leur est offert. Et même, selon sa dureté et selon son cœur sans repentance, l'homme amasse pour lui-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Si celui qui rejette la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins, d'une punition combien plus sévère sera jugé digne celui qui foule aux pieds le Fils de Dieu et outrage l'Esprit de grâce. Hébreux 10, versets 28-29.
Si quelqu'un a méprisé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. D'une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui a estimé profane le sang de l'Alliance par lequel il avait été sanctifié et qui a outragé l'Esprit de grâce?
Si nous avons saisi la pensée de l'apôtre qui ne parle pas dans ce passage, comme dans le premier chapitre, de l'Évangile de Dieu touchant son Fils, mais nous présente les invariables et justes principes et les voies de Dieu à l'égard de l'homme, il ne nous sera pas difficile de comprendre ce qui suit. Le Dieu juste, auprès duquel il n'y a pas d'acception de personne, rendra en ce jour-là à chacun selon ses œuvres, à ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité, la vie éternelle. Mais à ceux qui sont contentieux et qui désobéissent à la vérité et obéissent à l'iniquité, la colère et l'indignation, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, et du juif premièrement et du grec. Mais gloire et honneur et paix à tout homme qui fait le bien, et au juif premièrement et au grec. Versets 6 à 11. L'apôtre a annoncé dans le premier chapitre le glorieux message que l'Évangile est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement, et aux Grecs. Ici, par contre, où il s'agit du gouvernement de Dieu, l'apôtre met tout homme, le Juif et le Grec, dans une sérieuse alternative. Chacun sera manifesté devant Dieu selon ce qu'il aura été ici-bas dans sa marche et dans son état intérieur. Celui qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, aura cherché la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité, recevra la vie éternelle. Mais celui qui aura désobéi à la vérité et obéi à l'iniquité sera l'objet de la colère et de l'indignation. Ce n'est que sous l'action de l'Esprit de Dieu qu'un homme peut faire les premières choses et les rechercher. Il faut qu'il connaisse les vérités du christianisme. Mais cela n'est pas considéré dans ces passages. Il ne s'agit ici que de la présentation des justes voies de Dieu envers l'homme, quand Dieu considère, dans sa sainteté, son état moral et ses pensées. Il en est de même en Jean 5, verset 29.
Ils sortiront ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement.
Le Seigneur dit que ceux qui auront pratiqué le bien sortiront de leurs sépulcres en résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement. Remarquons aussi comment l'apôtre parle ici de la vie éternelle. ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, etc., reçoivent à la fin de leur course la vie éternelle, ils entrent dans cette vie. La vie éternelle n'est donc pas considérée ici comme une chose actuelle possédée par le croyant, mais comme le but ou l'issue d'une course de fidèle dévouement au Seigneur. C'est le même sens que l'on trouve dans d'autres passages. Ainsi, en Matthieu 25, verset 46, les justes entrent dans la vie éternelle.
Ceux-ci s'en iront dans les tourments éternels et les justes dans la vie éternelle.
Les justes entrent dans la vie éternelle. Timothée est exhorté à saisir la vie éternelle. En Tite, il est parlé de l'espérance de la vie éternelle. Par contre, l'apôtre Jean, dans son évangile, parle presque exclusivement de la vie éternelle dans le premier sens. Dans notre épître, il y a un intéressant passage dans lequel la vie éternelle est mentionnée dans les deux sens. Dans le chapitre 6, versets 22 et 23, l'apôtre dit, en effet, qu'ayant été affranchi du péché, nous avons notre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Puis il ajoute, car les gages du péché c'est la mort, et le don de grâce de Dieu c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Nous possédons dès maintenant en Christ la vie éternelle comme un don de Dieu, et à la fin de notre course, nous entrerons dans la pleine jouissance de cette vie dans la gloire. Quelle grâce ! L'apôtre parle ensuite des différentes responsabilités des hommes. Ils sont tous responsables. Le jugement de Dieu sera juste dans chaque cas, mais la grandeur de leur privilège déterminera la mesure de leur culpabilité. Il y avait des hommes sans loi, les païens, et d'autres sous la loi, les juifs. L'apôtre a montré clairement dans la deuxième moitié du chapitre 1 la culpabilité des premiers. C'est pourquoi ils périront sans loi. Ils ne peuvent pas échapper. D'autre part, les juifs qui sont sous la loi connaissent la volonté de Dieu et ont transgressé sciemment ses commandements. Ils sont coupables dans une plus grande mesure encore que les païens. Aussi seront-ils jugés par la loi, verset 12. C'est précisément leur position privilégiée en témoignage pour Dieu parmi les peuples de la terre qui rendait leur culpabilité d'autant plus grande. Le nom de Dieu n'avait-il pas été blasphémé à cause d'eux parmi les nations, verset 24. Dieu fermerait-il ses yeux sur les méchancetés qu'ils avaient commises? Non, ce sera précisément la loi dont ils se glorifiaient qui les jugera. Au jour du jugement, chacun sera jugé d'après sa position personnelle et ses privilèges. Le païen sans loi, le juif sous la loi, le chrétien professant d'après ses privilèges chrétiens. En vérité, le juge de la terre entière agira justement. Toute bouche sera fermée sans justification possible. Dieu regarde, comme il est dit, non pas à l'apparence, mais au cœur. Il prend son plaisir à la vérité dans l'homme intérieur. C'est pourquoi ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui accomplissent la loi qui seront justifiés, verset 13. Dieu a en horreur tout ce qui est apparence extérieure. Il prend son plaisir dans la sincérité. Les païens donc, qui n'avaient point de loi, en faisant naturellement les choses de la loi, étaient plus agréables à Dieu que les juifs qui se glorifiaient de la loi et ne l'observaient pas. Ces païens étaient, comme l'apôtre le dit, loi à eux-mêmes, en suivant les avertissements de leur conscience. Selon leur connaissance et selon que leurs pensées s'accusaient entre elles ou aussi s'excusaient, ils montraient l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, versets 14 et 15. Ils étaient des observateurs de la loi, reconnus de Dieu comme tels, sans l'avoir jamais entendu. Remarquons ici que l'apôtre ne dit pas que de tels païens aient reçu le signe de la nouvelle alliance, mentionné en Hébreux 10, versets 15 et 16, alliance que le Seigneur établira à la fin pour son peuple terrestre. En mettant mes lois dans leurs cœurs, je les écrirai aussi sur leurs entendements, et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. Si l'on considère un païen se soumettant à l'obligation d'honorer ses parents ou d'aimer son prochain, il aurait, en suivant cette obligation, accompli sans le savoir les commandements de Dieu et lui aurait été beaucoup plus agréable, malgré son ignorance et son aveuglement, qu'un juif infidèle, avec toutes ses prétendues connaissances et ses privilèges religieux. Toutefois, cela ne renverse aucunement le sérieux principe établi au verset 12, que tous ceux qui ont péché sans loi périront aussi sans loi, et que tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. La sévérité du jugement correspondra à la conduite personnelle et à la mesure de responsabilité de chaque homme, qu'il soit païen, juif ou chrétien professant sans vie. Et c'est bien là une pensée effrayante pour tout homme qui, connaissant la volonté de Dieu, suit cependant les convoitises de sa nature ou les pensées de son cœur obstiné et incrédule. Le jugement s'exercera au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes, verset 16. Dieu exerce déjà aujourd'hui sur les individus et les peuples un jugement gouvernemental selon les voies de sa providence, mais un jour il amènera toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste 12, verset 14. En ce jour-là, il mettra en lumière les choses cachées des ténèbres et manifestera les conseils des cœurs, 1 Corinthiens 4, verset 5. C'est de ce jour que l'apôtre parle ici, et quand il parle du jugement de Dieu sur l'homme, il ajoute « selon mon évangile ». Paul annonçait l'évangile de Christ, l'homme crucifié, ressuscité et glorifié à la droite de Dieu, qui est devenu pour tous les croyants justice et sainteté et rédemption. C'est en face de la grâce merveilleuse qui est apparue en Jésus pour apporter à tous, sans distinction, le salut et la vie, que la sainte colère de Dieu, qui aujourd'hui déjà est révélée du ciel, chapitre 1, verset 18, se répandra sur tous ceux qui ont péché et ont négligé la grande délivrance qui leur a été offerte. Jésus lui-même, qui maintenant comme sauveur appelle le pécheur à la repentance, mettra alors en lumière, comme juge des vivants et des morts, tous les conseils et les actes secrets des hommes, et chacun recevra les choses accomplies dans le corps selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal, de Corinthiens 5, verset 10. Tout ceci se fera en accord avec l'évangile confié à Paul, selon mon évangile. Quelle réponse accablante à ceux qui, s'appuyant sur la vérité que Dieu est amour, nient dans leur folie le jugement éternel et prêchent la délivrance finale de tous les hommes. L'apôtre, après avoir décrit dans le premier chapitre l'état de culpabilité des païens, et après s'être occupé dans les 17 premiers versets du second chapitre de la responsabilité de l'homme en général, juif ou païen, vis-à-vis de Dieu, s'adresse alors aux Juifs en particulier. Or si toi, tu portes le nom de Juif, et que tu te reposes entièrement sur la loi, et que tu te glorifies en Dieu, verset 17. Israël jouissait d'une position privilégiée parmi tous les peuples de la terre. Dieu s'était révélé à lui comme le seul vrai Dieu, et lui avait donné ses 5 commandements. Les Juifs étaient instruits dans les pensées de Dieu, et savaient discerner les choses excellentes. C'est pourquoi il se croyait être un conducteur d'aveugles et une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Il les considérait avec compassion ou même avec mépris du haut de sa grandeur. Qu'en était-il donc réellement de lui? Est-ce que ses privilèges l'avaient conduit à marcher dans les voies de Dieu? Est-ce que la lumière qu'il possédait l'avait détourné des abominations païennes? Hélas! Il ne possédait qu'une forme de connaissance et de vérité par le moyen de la loi et se croyait un instructeur des hommes dépourvus d'intelligence, un maître de petits enfants, tout en faisant exactement les mêmes choses que le païen. Il se rendait ainsi doublement coupable. Toi donc qui enseignes les autres, ne t'enseignes-tu pas toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit pas dérober, dérobes-tu? Toi qui dis qu'on ne doit pas commettre adultère, commets-tu adultère? Toi qui as en abomination les idoles, commets-tu des sacrilèges? Toi qui te glorifies en la loi, déshonores-tu Dieu par la transgression de la loi? Versets 21 à 23. Paroles accablantes. Tous les discours vaniteux du Juif ne faisaient que montrer avec une clarté d'autant plus grande sa honteuse situation. Si sa conscience avait été quelque peu éveillée, il n'aurait pu faire autrement que de se courber sous le sévère jugement de l'apôtre et reconnaître son péché et sa folie. Certes, les Juifs n'avaient pas seulement commis péché sur péché et privé leur Dieu des sacrifices qu'ils lui devaient en s'en servant pour leur propre profit, mais leur méchanceté avait atteint un tel point que le nom de Dieu était blasphémé à cause d'eux parmi les nations, verset 24. Partout où ils étaient venus, ils avaient profané ce saint nom. Voir Ésaïe 52, verset 5.
Et maintenant, qu'ai-je à faire ici, dit l'Éternel, que mon peuple ait été enlevé gratuitement? Ceux qui dominent sur lui le font hurler, dit l'Éternel, et mon nom est continuellement blasphémé tout le jour.
Ézéchiel 36, verset 20 à 23.
Et ils vinrent chez les nations où ils sont venus, et ils profanèrent mon saint nom, en ce qu'on disait d'eux, c'est ici le peuple de l'Éternel, et ils sont sortis de son pays. Et j'ai épargné mon saint nom, que la maison d'Israël profana parmi les nations où ils sont venus. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, ce n'est point à cause de vous, maison d'Israël, que je le fais, mais c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes venus. Et je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, et que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié en vous à leurs yeux.
Est-ce que Dieu, qui ne donne pas sa gloire à un autre et qui juge sans exception de personne, selon l'œuvre de chacun, pouvait sanctionner une telle conduite? Comme nous l'avons vu, il regarde au cœur. Des formes extérieures sans puissance ne peuvent lui suffire. Car en effet, continue l'apôtre, la circoncision est profitable si tu accomplis la loi. Mais si tu es transgresseur de la loi, ta circoncision est devenue incirconcision. C'est-à-dire, tu ne te distingues plus en rien d'un païen. Et réciproquement, si l'incirconcision garde les exigences de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée pour circoncision? En d'autres termes, si un païen garde les exigences de la loi, il est acceptable devant Dieu, et même sans posséder les privilèges extérieurs du juif, en accomplissant la loi, il juge ce dernier, qui, dans la lettre et la circoncision, est un transgresseur de la loi, versets 25 à 27. Remarquons que l'apôtre ici, comme dans les versets 1 à 16, ne développe pas les vérités de l'Évangile, mais parle des justes voies de Dieu à l'égard de l'homme. Nous avons à peine besoin d'ajouter que ces voies se recommandent à toute conscience sincère et ne sont nullement en contradiction avec les révélations de la grâce de Dieu en son Fils bien-aimé. La conclusion de l'apôtre est simple et claire, car celui-là n'est pas juif qu'il est au dehors, et celle-là n'est pas la circoncision qu'il est au dehors dans la chair, mais celui-là est juif qu'il est au dedans, et la circoncision est du cœur, en esprit, non pas dans la lettre. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu, versets 28 et 29. Nous retrouvons toujours ce même principe. Dieu trouve son plaisir dans la sincérité. Il rejette toute forme extérieure. À quoi servent une religion extérieure et l'observation la plus exacte de statuts si le cœur et la conscience ne sont pas amenés dans la lumière de Dieu? Pour être un vrai juif, il faut avoir la circoncision du dedans, en esprit, et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu.